Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. 26 os, 33 articulations, 20 muscles et 107 ligaments, soit 25% des muscles et os de la totalité de notre corps. Non, je ne te parle pas de tes cuisseaux, mais bien de tes pieds. Outre leur incroyable capacité à porter ton corps et à maintenir ton équilibre, ce sont aussi des autoroutes sensorielles qui informent constamment ton cerveau de son environnement. Dans ce nouvel épisode de Limitless Project, j'ai la chance de discuter avec le préparateur physique et posturologue lausannois Sébastien Zimmer, avec qui nous allons parler de neuroposturologie. Le pitch, avec des exercices oculaires, vestibulaires et proprioceptifs simples, tu peux reprogrammer la qualité des informations que reçoit ton cerveau et ainsi améliorer tout à la fois ta mobilité, ta performance physique, ta santé et réduire tes douleurs. Deal ? Salut Sébastien !
Salut !
Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous raconter un peu ce que tu fais dans la vie, qui tu es, où est-ce que tu habites ?
Avec plaisir. Déjà, merci de m'avoir accepté, m'avoir invité dans ce podcast.
Alors, avec plaisir. Je suis hyper heureux de t'avoir, comme j'ai eu l'occasion de te le dire en intro. J'ai lu des articles que tu as écrits que j'ai trouvé passionnants. J'ai entendu parler de toi, notamment par Rudy Koya. Et j'ai entendu quelques-uns de tes podcasts sur Nos Minutes. Donc je sens que ça va être hyper intéressant.
On va essayer en tout cas. Merci en tout cas. Alors, qui suis-je ? Sébastien Zimmer, j'ai 29 ans. Donc, j'ai un master en sciences du sport de l'Université de Strasbourg que j'ai validé en 2016, je crois. C'est ça. Donc, Strasbourg. Aujourd'hui, je vis en Suisse à Lausanne. Donc, il y a 3 ans, un peu plus de 4 ans maintenant, j'ai fait le choix de tout plaquer et changer de pays et recommencer à zéro pour diverses raisons personnelles et professionnelles. Et donc voilà, aujourd'hui je suis essentiellement posturologue, enfin on peut se dire posturologue, mais aujourd'hui ça veut pas dire grand chose, ça veut tout dire et rien dire, mais on va dire que dans la préparation physique, on va dire j'ai plus main, on va dire, sur tout ce qui est l'aspect neuro et posturo dans la performance. Et de la préparation physique à proprement parler, j'en fais quasiment très peu en fait aujourd'hui. Donc je me suis vraiment spécialisé là-dedans, posturo, neuro et neuroperformance. Voilà.
Et alors, t'es satisfait de ce changement de vie cette arrivée en Suisse ?
Ah, le début, il était dur. Hein. Pour plein d'aspects, outre l'aspect financier qui est de par la France versus la Suisse et deux mondes totalement à part. Mais non, globalement, hyper content, zéro regret, donc tout au top, tu vois.
Ok, bon bah écoute, super. Bon allez, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de neuroposturo après, mais j'aimerais qu'on commence par quelque chose de beaucoup plus élémentaire, qu'on a tous au bout de nos jambes et qui nous permet de tenir droit en équilibre, ce qui paraît complètement anodin, mais en réalité est complètement fou. Le pied. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? À quoi ça sert, les pieds ?
Bah, d'une part, à marcher, j'ai envie de te dire. Mais c'est marrant, parce qu'on va dire qu'on dit toujours qu'il y a 1% du corps qui en soutient 99 autres. Et c'est le pied. Et aujourd'hui, il y en a très peu qui prennent vraiment en considération le pied dans la performance ou même dans la santé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais aller à l'extrême et catégoriser. C'est-à-dire que tu as un pied qui donne une information, un autre pied qui en donne une autre. Mais à un moment donné, quand tu as le pied gauche qui va donner une information à ton cerveau et ton pied droit une autre, parce que tu as deux pieds différents, bah forcément, tu sais que dans le traitement de l'information du cerveau de tes pieds, elle sera différente. Parce que tu as deux informations qui montrent qu'elle est différente. Et quand le cerveau va les traiter et le renvoyer dans le corps, bah forcément, ce sera différent. Et là, on parle peut-être de niveau musculaire, de chaîne musculaire ou tout ce que tu veux, mais à un moment donné, forcément, ça aura une répercussion sur tout l'aspect musculaire. Donc, ça, c'est la première des choses. Et puis, on dit toujours en posturologie, on va dire assez classique, il y a deux capteurs principaux de la posture, ce sont les pieds et les yeux. C'est-à-dire qu'il y aura une dépendance du capteur oculaire, donc de l'œil sur le pied, et de pied sur l'œil. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si tu as un problème au niveau oculaire, et en termes d'oculomotricité, donc les muscles autour de l'œil, s'il y a un problème, il y aura une répercussion directe sur les pieds et inversement. Et encore une fois, comme c'est les principaux capteurs de la posture, bah, tu auras une mauvaise posture qui, on va dire, c'est pas A égal B, mais aura des chances d'avoir plus de douleurs. Encore une fois, je dis pas que avoir une mauvaise posture, tu auras des douleurs. Je dis juste que avoir une mauvaise posture, tu auras plus de chances d'avoir des douleurs. Et donc, une perte de performance.
Et concrètement, toutes les terminaisons nerveuses, enfin toutes les terminaisons sensorielles qu'il y a dans les pieds, est-ce qu'elles peuvent encore jouer leur rôle et fonctionner alors qu'on porte des chaussures, qu'il n'y a plus vraiment de contact avec le sol, qu'elles sont vachement amorties, etc. Est-ce qu'on n'a pas perdu justement nos sensations, alors, notre capacité à comprendre notre environnement avec nos pieds?
Est-ce qu'on les a perdues? Non, je pense pas. Il y a un concept de base qu'on utilise en reprogrammation neuroposturale, c'est la neuroplasticité, c'est-à-dire que le système, il est tout le temps changeant. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu as tout le temps des bûches, on va dire, sous les pieds, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tes récepteurs vont un petit peu s'éteindre. Versus si tu es un petit peu plus pieds nus ou en chaussures minimalistes, bah, ces récepteurs, ils vont se réactiver. Et on parle de neuroplasticité, c'est pourquoi? C'est-à-dire que le système, il est toujours changeant. Et effectivement, si... Dès que t'as un an et qu'on te met déjà des chaussures aux pieds, effectivement, il y aura de fortes chances que tu auras des répercussions plus tard. Mais l'idée, c'est de toujours privilégier la marche pieds nus, en fait, on va dire. Et ce qui est marrant, c'est quand tu regardes un petit peu l'évolution, là, je te parle de phylogénèse, donc c'est l'évolution de l'espèce de l'homme. Et en fait, il semblerait que, par rapport aux études, c'est que les pieds se seraient développés avant le cerveau. Donc peut-être que, encore une fois, si on a des pieds qui sont pas totalement activés, peut-être qu'il y aura des répercussions au niveau du cerveau. Et encore une fois, quand je dis le cerveau, c'est au niveau de la cognition ou plein d'autres aspects à ce niveau-là. Ce qui a déterminé l'évolution phylogénétique pour être l'homme qu'on est aujourd'hui, donc l'homme avec un grand H, hein, ce qu'on est, c'est d'abord qu'on soit descendu des arbres, notre pied s'est formé, et ensuite on a eu toute cette cognition et tout cet intellect qui s'est développé pour créer des outils, etc. Donc en fait, encore une fois, c'est des hypothèses parce qu'on n'a pas forcément de réponse, mais que le pied serait très en corrélation par rapport à toute cette cognition et par l'évolution de l'espèce pour être l'homme qu'on est aujourd'hui. Donc, est-ce que le fait de porter tout le temps des chaussures va à l'encontre de notre espèce? Bah, j'ai envie de te dire probablement.
Donc, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que si je marche pieds nus, je vais probablement être plus intelligent.
Alors, c'est peut-être simpliste, mais mine de rien, il y aura peut-être des possibilités de, effectivement. Parce qu'encore une fois, la cognition et tous ces processus de mémorisation, reconnaissance, etc., etc., ça fait partie des processus cognitifs et on va dire c'est d'une haute pyramide. Et encore une fois, dans le haut d'une pyramide, il faut qu'il y ait une base stable. Et dans la base, c'est quoi? C'est du sensoriel. Donc, probablement qu'effectivement, bon, encore une fois, c'est très simplifié, mais effectivement, le fait de marcher pieds nus, tu vas stimuler ton sensoriel va améliorer ton moteur, qui lui-même va améliorer de ce fait la cognition.
Donc, tu peux rigoler, mais comment est-ce que je peux me reconnecter justement aux sensations de mes pieds, au sensoriel? Donc, tu l'as dit, on peut marcher pieds nus, mais dans une vie moderne où tu dois aller travailler la journée, etc., c'est pas forcément évident. Donc, quelle solution j'ai?
C'est pas forcément évident, mais c'est pas forcément impossible. On va dire qu'aujourd'hui, il y a des chaussures minimalistes qui existent. Tu peux faire des stimulations tactiles du pied par des outils comme des balles à picots. Tu peux le faire avec des pinceaux, avec des stylos. Petite astuce pour le stylo, on enlève la pointe, hein, par expérience. il y a plein de ces petites-là. Tu peux faire des rampes.
Comment tu l'utilises, le stylo?
Non, en gros, attends, je vais te le montrer. Ah mince, c'est un podcast.
Ouais, c'est un podcast. Du coup, mais tu sais quoi? Tu me feras une petite vidéo. Je la mettrai dans l'article.
Ouais, mais en fait, c'est tout bête. C'est juste, t'as la pointe, tu l'enlèves. C'est juste pour avoir une stimulation au niveau du pied. Mais prends le pinceau, le balle à pique, ça va très bien. Et c'est toutes ces petites choses qui permettent d'avoir cette stimulation tactile au niveau du pied que tu n'as pas forcément avec des chaussures, encore plus avec des chaussures, avec des grosses semelles ou des talons, tu vois, pour aller à l'extrême.
Et ça, c'est des exercices que tu recommandes de faire à quelle fréquence, pendant combien de temps? Par exemple, je prends une balle à picot, je stimule un peu mon pied dessus, je vais le faire quoi, 1 minute tous les jours, c'est suffisant ou
De manière générale, je dis tout le temps, genre, au plus tu le fais, au mieux c'est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, on va dire que ça dépend à quelle heure tu te lèves. On va prendre une moyenne, les gens se lèvent vers 6 heures du mat, je pense, à peu près, je sais pas trop.
Ouais, moyenne. C'est mon cas, ça marche bien.
Voilà. 6 heures, 22 heures, en moyenne, donc ça fait quoi? Ça fait quand même pas mal d'heures. Et si sur toutes ces heures, t'es debout dans des chaussures, ben, c'est pas peut-être tes 30 secondes de stimulation tactile qui vont faire grand chose. Donc, le plus possible. Donc, si maintenant tu peux le faire 3-4 fois le matin, 3-4 fois l'après-midi, entre midi, le soir, tu es une pieds nus, etc., tu vois. L'idée, c'est un petit peu de combiner tout ça et enlever ce monde moderne où on a des chaussures dans des cercueils, si je peux appeler ça comme ça, où on n'a plus aucune mobilité au niveau du pied. Encore une fois, le pied, c'était 1% du porc qui en soutient 99 autres. Si ton pied, il est pas stable ou il est pas fort, et encore une fois, c'est là où il y a le plus d'articulations, le plus de ligaments et le plus de réceptions nerveuses, en fonction des cas. Encore une fois, si là, c'est pas innervé, c'est pas mobilisé, ben, tu sais qu'en fait, ce sera pas top. Donc, en fait, l'idée, c'est ça, c'est changer un petit peu ce modèle sociétal, si je puis dire, dans les chaussures, on va dire, les chaussures, on va dire, des costards, tu vois, où le pied il est enfermé, etc., etc., pour privilégier tout ce qui est un mode, on va dire, de stimulation tactile, marcher pieds nus, marcher avec des chaussures minimalistes, aller dans l'herbe, aller dans la terre, etc., etc., quoi.
Tu le sais, produire un épisode de Limitless Project, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, et depuis que j'enregistre en studio, ça me coûte 400 euros par épisode. Vous êtes nombreux à me demander comment me soutenir. Aujourd'hui, j'ai une réponse claire. Il s'appelle la routine des audacieux. C'est une véritable boîte à outils. J'y partage tous les protocoles, les hacks et les routines que j'ai testées, affinées et intégrées dans ma vie ces 5 dernières années. Le but, t'aider à libérer ton plein potentiel, sans t'imposer des méthodes ultra complexes ou des gadgets hors de prix. C'est vraiment la loi de Pareto appliquée à la santé, la longévité et la performance. Le livre sort début septembre, mais tu peux déjà le précommander. Et c'est crucial, plus il y a de précommandes, plus les libraires s'y intéressent et plus ce projet a de chances d'exister en grand. Alors si tu veux me donner un coup de main et soutenir ce projet en investissant 20 euros dès aujourd'hui, le lien de précommande est dans la description de l'épisode. Merci infiniment pour ton soutien.
Et en plus, la mode va complètement à l'encontre de la physiologie du pied, parce que tu regardes maintenant les chaussures à la mode, c'est des plateformes de 10 cm en dessous qui sont énormes, avec des semelles énormes. Enfin voilà, c'est vraiment incroyable.
Après, là, je parle bien en termes de santé. Encore une fois, probablement que le mec, il est dans le top 3 des marathons, etc. Et il aura peut-être des chaussures spéciales. J'ai envie de te dire, heureusement, tu vois, je vais pas faire un marathon avec des chaussures minimalistes. C'est un petit peu différent, mais on sait aussi que le sport de haut niveau, c'est pas forcément de concert avec la santé. Donc à un moment donné, ça dépend ce que tu recherches aussi, quoi. Donc, mais voilà, c'est à prendre en considération aussi.
Et justement, dans une optique de santé, donc quels seraient tes conseils pour choisir une bonne paire de chaussures? Donc déjà, éviter les semelles trop épaisses, trouver des chaussures plutôt souples, je suppose. Peut-être assez larges aussi au niveau des orteils pour leur laisser de la place. Est-ce que tu as des marques de chaussures minimalistes qui peuvent se porter au quotidien, qui fassent pas trop, qui fassent pas trop spécifiques, justement,
Alors, je suis pas spécialiste de chaussures, mais effectivement, tout ce que tu as dit, c'est le moindre possible, t'arrives à les plier et que t'as de l'espace pour les orteils. J'aurais dû demander à des marques pour faire du sponsoring, comme ça, je les aurais cités. Mais non, moi, j'aime bien tout ce qui est Vivo Barfoot et aussi, les Five Fingers, j'ai oublié le nom, les Vibram.
Ouais, Vibram.
Elles sont très laides quand même. C'est un peu le problème avec les chaussures minimalistes aujourd'hui, elles sont pas super sexy et pour les porter ça, ça dépend où tu vas, quoi.
Il y a une marque, je crois que c'est une marque espagnole qui s'appelle Gundiz, qui esthétiquement donne l'impression de chaussures de ville et qui sont en même temps des chaussures minimalistes qui respectent la physiologie du pied.
Ouais.
Mais on va regarder. Après, je les ai pas testées personnellement, mais moi j'utilise des chaussures. Je sais pas si tu connais Skinner, ça s'appelle.
Non.
C'est une espèce de chaussette avec un revêtement en dessous qui évite de se couper si tu marches sur des cailloux ou autre.
Si j'ai vu
là, tu ressens bien toutes les aspérités du sol. Et d'ailleurs, très naturellement, ça te donne envie plutôt de marcher dans l'herbe, dans le sable, etc. Parce qu'en fait, tu te rends compte que l'asphalte, c'est dur. Et justement, j'en viens à la question suivante, le fait qu'il n'y ait pas d'amorti dans les chaussures minimalistes, est-ce que ça peut pas te blesser à terme, puisque notre environnement est fait de revêtements qui sont hyper durs, qui sont pas naturels et qui sont justement hyper durs?
Je te dirais que non. Alors là, on va peut-être bifurquer un petit peu, mais on va dire que tous ces chocs, ils sont intéressants et ils sont bons pour toi, parce que ces chocs, ils vont permettre de simuler, on va dire, tout ton système, et notamment au niveau de l'os, qui, encore une fois, l'os qui va te permettre de donner une bonne information à ton cerveau. Et souvent, c'est un peu le problème, c'est à force de surprotéger, ben en fait, tu deviens plus rien. Parce qu'à force de surprotéger, t'as plus de système qui peut compenser, qui peut s'adapter, on va dire, et tu deviens moins résilient. Et du coup, c'est là où ça devient problématique. Donc, au contraire, je te dirais, oui, vas-y, quoi, tu vois. Et c'est ça, les problèmes, c'est ça, genre, ouais, j'ai des chevilles fragiles, j'ai ça, donc je les surprotège. Mais si tu vois, tu le prends dans le temps, en fait, ça va de pire en pire. À un moment donné, il faut que tu y ailles, quoi, tu vois.
Oui, ça, c'est de façon générale. D'ailleurs, l'excès de confort nous rend de plus en plus faibles, de moins en moins résilients. Tu vois, le fait de jamais être exposé au froid, au chaud, etc. Enfin, moi, j'ai, par exemple, sur la méthode Wim Hof, etc., tu te rends compte que, voilà, qu'on est aujourd'hui dans des sociétés où tout est contrôlé, tout est contrôlable. Et donc, ça rend le corps de plus en plus faible. Et donc
c'est ça.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, je me pose une question sur les chaussures orthopédiques, non, les semelles orthopédiques que peuvent te prescrire des podologues. Ça va un petit peu à l'encontre de cette logique de chaussures minimalistes, non?
Alors, ça va à l'encontre des chaussures minimalistes, oui. Alors, le problème, à mon sens, de ce que je vois, c'est qu'il y a eu une démocratisation des semelles orthopédiques qui a fait que tout le monde doit en avoir. Et moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Est-ce que tout le monde, personne ne doit en avoir? Je dis pas ça non plus. Je dis, le meilleur moyen, c'est de tester si c'est vraiment intéressant pour toi ou non. Mais encore une fois, si t'as jamais utilisé ton pied, forcément, il se sera jamais développé et à un moment donné, forcément, t'auras des problèmes au niveau des pieds qui ensuite aura des répercussions au niveau, sur tout le système. Encore une fois, le problème aussi, c'est que aujourd'hui, on va te mettre des semelles orthopédiques. Encore une fois, qui, à mon sens, il y en a des qui sont pas mal, il y en a qui sont vraiment dégueulasses, pardon pour l'expression. Mais encore une fois, on disait qu'on travaille sur un système qui est systémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu mets une correction au niveau du pied et que tu vas pas agir au niveau de l'oreille interne ou des yeux, c'est que tu fais une grosse erreur. Parce qu'on disait avant, justement, que c'est que l'un va agir sur l'autre. Si tu mets des semelles orthopédiques ou autres, n'importe quel type de semelle, et que tu vas pas voir les yeux ce qui se passe, c'est qu'en fait, tes yeux vont décompenser par rapport à cet artifice, on peut appeler ça comme ça, que tu as mis sous le pied. Et donc là, il y aura d'autres problèmes. Tu règles un problème pour en donner deux autres. Parce que c'est vraiment utile, je suis pas sûr. Mais je vais pas aller à l'encontre des semelles orthopédiques. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment intéressantes, surtout pour les pathologies. Mais pour moi, elles ont été trop démocratisées pour dire, ah, t'as besoin de semelles. Non, peut-être pas.
Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que le podologue devrait faire? Il te prescrit des semelles et il devrait te donner des exercices à faire avec les yeux, etc. Bon, on va rentrer après sur la neuroposturo plus en détail. Mais du coup, ça serait ça l'idée?
Alors, est-ce qu'il doit faire ça? Non, je pense pas. Moi, à mon sens, et c'est comme ça que je travaille, j'ai toujours privilégié, on va dire, la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est que le podo, il faut peut-être qu'il se mette en contact avec un orthoptiste, peut-être qu'il se mette aussi en contact avec un posturo ou reprogrammation neuroposturale ou avec d'autres corps de métier, un dentiste, etc. Parce que, encore une fois, l'un va agir sur l'autre et travailler juste sur une entrée, pour moi, c'est totalement délaisser les autres qui fait que ça règle pas, juste pas le problème parce que tu vas en créer d'autres, tout simplement.
Ok. Mais du coup, on arrive, on met les pieds dans le plat, dans la posturo. Avant de parler de neuroposturo, d'abord, qu'est-ce que c'est une bonne posture?
Qu'est-ce qu'une bonne posture? Je dirais celle que tu as. De toute façon, qu'est-ce qu'une bonne posture? Disons que la posturologie, la posture, comment je la conçois, elle est pas bonne ou mauvaise. C'est celle que tu as aujourd'hui en fonction de ce qui est disponible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire à quelqu'un, faut que tu tiennes droit, tu vas faire ça, ou tu vas te mettre une ceinture pour tenir droit, à un moment donné, c'est complètement, encore une fois, à l'encontre de la physiologie, de comment le système y fonctionne. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as une, entre guillemets, moins bonne posture, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu auras peut-être des bascules, des rotations. C'est qu'à un moment donné, ton système, il est tellement adapté, ou mal adapté, ou compensé, que cette mauvaise posture, entre guillemets, elle est bonne pour toi. Mais est-ce qu'elle est réellement efficiente et résiliente? Je pense pas. C'est juste qu'à un moment donné, elle acquiert cette posture parce qu'elle n'a pas le choix en fonction des informations qu'elle a. Et là, on va faire le pont avec la reprogrammation neuroposturale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu travailles sur les entrées sensorielles. C'est-à-dire que le système, comment il fonctionne? De manière très simpliste, c'est ton cerveau, il prend de l'information. Donc là, notamment par le système vestibulaire, le système visuel, les pieds, la proprioception au sens large. Il va les traiter et les renvoie dans le corps. Donc, on parle de input, interprétation, output. OK? Les pieds en font partie d'une composante des inputs. La posture ou tout le mouvement que tu vas faire est un output. OK? C'est-à-dire, si maintenant je vais prendre ma souris qui est là, je crée un acte moteur qui va me permettre de prendre cette souris. Donc, de l'ordinateur, pour ceux qui, pas la souris, pour ceux qui sont en podcast. D'accord? C'est un acte moteur. C'est un output. Mais ça, ce sera toujours aussi bon en termes de qualité, que mon système d'interprétation, donc mon cerveau au sens large, que mon système d'input, le fait de prendre les informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, mon système de prise d'information et d'interprétation d'information n'est pas bonne, il y aura un problème au niveau de mon acte moteur, donc prendre ma souris, ou alors de ma posture. Parce que finalement, la posture et le mouvement, c'est la même chose. C'est un output, tout simplement.
Ok, et si par exemple, donc dans les exercices que tu proposes, il y en a un assez simple que j'ai essayé, où tu tiens un stylo devant tes yeux et tu vas tourner la tête en étoile et en continuant à le regarder avec tes yeux. Bon, je mettrai une petite vidéo, une petite photo du truc pour que les gens comprennent, mais ça paraît con entre guillemets, et tu te demandes comment, qu'est-ce que, je comprends que tu modifies l'input, etc., mais qu'est-ce que tu reprogrammes dans ton cerveau en faisant ça? Qu'est-ce qui est modifié dans ton cerveau? Qu'est-ce que tu cherches à faire et en quoi ça peut impacter ta mobilité? Pourquoi est-ce que après j'ai une meilleure mobilité de ma chaîne postérieure quand je me baisse en avant, j'ai plus facile à toucher mes pieds? Enfin, moi j'ai trouvé ça complètement fou.
Alors, pour l'exercice que tu disais, c'est le réflexe vestibulo-oculaire. C'est le fait de fixer une cible pendant que ta tête est en mouvement. C'est un lien entre le système vestibulaire et le système visuel. C'est une composante entre les deux. En fait, dans la formation qu'on a fait avec RNP, bon, désolé, je tease, mais c'est parce qu'en fait, j'en parle tout le temps, c'est qu'on a créé un continuum de performance. D'accord? Donc, en fait, le job numéro un de ton cerveau, c'est quoi? C'est la survie. Là, tout ce qu'il cherche à faire, c'est survivre. Et à partir du moment où il prédit que son milieu, il est sécuritaire, il peut chercher de la performance. Et la performance, ça peut aller dans plein de choses. On va dire que dans le monde sportif, on parle toujours de performance motrice ou sportive, c'est-à-dire en force, explosivité. Ça peut être une bonne qualité de mouvement, le squat, il n'y a pas le bassin qui shift, etc. Mais ça peut aller au-delà. La performance, c'est aussi tout ce qui est la santé immunitaire, la santé endocrinienne, etc. D'accord ? Ça, c'est la performance. Si c'est pas sécuritaire pour lui, ton cerveau, il va pas aller dans cette performance. Il va aller dans le mode survie. D'accord? Plus tu vas aller dans le mode survie, plus tu auras des restrictions de mobilité, tu auras des douleurs, tu auras des problèmes intestinaux, des problèmes endocriniens, etc. Pourquoi? Parce que son job numéro un, c'est la survie. C'est pas la performance. C'est pour ça qu'on a des réflexes en nous qui font que si t'as un lion, bah, t'as trois comportements, un lion qui vient te foncer dessus pour te manger, en gros, hein, pour simplifier. On va dire, t'as quand même trois mécanismes qui sont un petit peu différents, mais c'est un mécanisme de survie, c'est que tu vas te paralyser, tu vas te battre ou tu vas fuir. C'est trois mécanismes. Versus un réflexe de performance, c'est un panier de basket, il y a pas tout le monde qui va créer un dunk, tu vois. C'est ce que je veux dire. Donc c'est des réflexes de vie donc qui font que le job numéro un de ton cerveau, c'est la survie. Si seulement s'il est sécuritaire, tu vas pouvoir chercher de la performance. Donc par rapport à l'exercice que tu as dit, le réflexe vestibulo-oculaire, imaginons que tu fais ce mouvement, donc tu vas fixer une cible, tu vas faire un mouvement à droite. D'accord? Tu vas juste redonner des bonnes informations à ton cerveau. Donc, ça veut dire quoi? Tu vas redonner un bon input qui va améliorer ton système d'interprétation. Donc là, on va surtout parler du cerveau sensoriel. Donc, le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral qui va donc être dans un milieu beaucoup plus sécuritaire et donc déplacer ton curseur de performance vers la performance.
Il va être plus sécuritaire parce qu'il aura un angle de vue plus large.
Parce qu'il aura, un meilleur système de prédiction. C'est-à-dire que pour survivre, ton système, il fonctionne par prédiction. Donc, je vois une situation devant moi et dis, OK, c'est sécuritaire ou c'est pas sécuritaire? Si c'est pas sécuritaire, encore une fois, est-ce que ce système de prédiction, il se met en place par rapport aux informations, aux afférences, donc au système sensoriel? Donc, le fait de faire un réflexe vestibulaire, c'est une des composantes du système sensoriel. Donc, si je lui fais ça, potentiellement, il est meilleur dans ça. Son système de prédiction, il est meilleur. Et donc, potentiellement, il dit, OK, il n'y a pas de danger quand je fais ça. Donc, je vais vers la performance.
OK. Et concrètement, est-ce que le fait de... Peut-être que dans nos sociétés modernes, justement, de travailler toute la journée devant un ordinateur, etc., on a souvent le regard fixe. On a beaucoup moins une vision panoramique de notre environnement, comme on pouvait l'avoir peut-être à l'époque des chasseurs-cueilleurs, où justement, on devait d'une part appréhender les dangers et d'autre part aller chasser, trouver de la nourriture, etc. Donc, un regard beaucoup plus large et panoramique. Est-ce que justement c'est notre mode de vie moderne qui fait qu'on se met plutôt en mode sécuritaire et qu'on peut être moins dans la performance?
Ça peut parce que alors tout le monde ne travaille pas forcément. C'est ça qui est marrant, tu vois, c'est que ceux qui sont tout le temps assis, ils bossent dans un bureau, ils me disent ouais je vais prendre l'exemple du dos, hein, j'ai mal au dos parce que je suis tout le temps assis. Putain, le mec il est tout le temps dehors, il travaille dans les routes ou j'en sais rien, tu vois, je connais même pas les corps de métier, tu vois. Et il dit j'ai mal au dos parce que je suis toujours debout. Donc d'un côté, tu as le mec qui a toujours mal au dos parce qu'il est toujours debout, et l'autre côté, il a mal au dos parce qu'il est toujours assis. C'est quoi le bon milieu? Tu vois, donc à un moment donné, tu t'y perds. C'est peut-être que son système de base est déjà un petit peu défaillant. Et on a toujours tendance à blâmer le contexte actuel. C'est-à-dire que c'est mon métier qui me fait ça. C'est le fait d'être assis qui me fait ça. C'est le fait que je fasse ça qui me fait ça. Ouais, c'est peut-être pas ça. C'est juste, en fait, toi qui est tellement en mode survie, j'exagère, qui fait que bah, ton cerveau il va aller dans le mode survie et donc créer des douleurs, en fait.
Et est-ce que tu penses, par exemple, que le fait de faire de la méditation, par exemple, qui te fait aller dans le système parasympathique et qui te calme, etc., pourrait te donner plus de mobilité en suivant cette théorie?
Oui.
Ok.
Ouais, carrément.
Bah, okay. Bah, en fait, d'ailleurs, maintenant que tu le dis, je me rends compte que quand tu fais un étirement, si tu expires longuement pendant l'étirement, ce qui justement l'expiration est pas mal liée au parasympathique, et ben t'as en général tendance à gagner en souplesse. Donc en fait c'est vrai que ça se rejoint pas mal.
Oui, ça peut aider, mais encore une fois, ta méditation tu la fais pas H24. tu vois. Donc,
non,
toute la journée. Ça peut aider sur le coup, mais ça règle, à mon sens, ça peut aider, mais ça va pas régler ton problème. Tu vois, t'es juste là pour cacher un petit peu ce que la misère qui est en dessous.
Et par contre, les exercices oculaires, donc il y avait l'étoile, il y a le zoom des zooms, etc. Tous ces exercices-là, si tu les fais régulièrement au cours de la journée, tu penses que tu peux, entre guillemets, reprogrammer ton cerveau pour avoir une meilleure posture, une meilleure mobilité, etc.
Alors, exercices oculaires, il y en a plus que deux. Tu vois, on a dire que je pourrais même pas dire combien il en existe. Et sans exagération, il en existe plus de 1000, juste au niveau oculaire. Après, t'as la proprio, et après, t'as le vestibulaire, et après, t'as encore d'autres systèmes. Il en existe beaucoup. Mais l'idée, c'est toujours d'individualiser. C'est-à-dire que, par exemple, toi, ton problème, comme tu disais, hein, je savais pas, tu vois, au niveau réflexe vestibulo oculaire, toi, il y avait un gain tout de suite. Tu vois, c'est ce que tu me disais.
Ouais, sur la chaîne postérieure, ouais.
Peut-être qu'une autre personne, elle va faire le même exercice, mais elle aura pas de gain. Parce que pour lui, c'est pas son facteur limitant. L'idée, c'est pas de faire tous les exercices qui existent, c'est de cibler les plus impactants pour toi. Et outre le fait qu'une fois que tu as fait cet exercice-là, je sais pas, tu l'as fait assis ou debout, en fonction d'eux. Après, il existe un autre quotidien, tu peux le faire en marchant, tu peux le faire en marchant à marche arrière, etc., etc. Il existe tout un système on augmente la, je perds mes mots, tu vois. On augmente la difficulté ou on la diminue. Tu vois, de gradation de difficulté. Voilà, c'est ça. De gradation de difficulté par rapport à l'exercice. Mais encore une fois, l'idée, c'est de cibler par rapport à la personne ce que la personne a vraiment besoin. Et c'est pas donner un exercice pour donner un exercice. Ça, tout le monde peut le faire. Pour extrapoler, là, tu vois, dans le monde du milieu du fitness, aujourd'hui, tout le monde fait des burpees et tout le monde fait de la corde à sauter, tu vois. On dit pas que c'est bien ou c'est pas bien. J'ai juste qu'aujourd'hui, et c'est un peu le même principe, c'est que il faut pouvoir faire un programme d'entraînement. C'est là où la subtilité, c'est trouver le bon exercice pour la bonne personne. Et ton programme à toi ne sera pas le même que le mien, ne sera pas le même que ma voisine, etc., etc. Et après, l'autre partie de ta question, c'était est-ce que le fait de le faire plusieurs fois va rester dans le temps? Oui, encore une fois, c'est ce que je disais avant par rapport à la neuroplasticité. C'est-à-dire que plus tu vas répéter la chose, plus tu vas créer les bonnes connexions à permettre d'engrammer le bon processus et ensuite pour pouvoir être dans un milieu qui est beaucoup plus sécuritaire pour toi. Beaucoup plus sécuritaire, tu peux augmenter ta norme de performance. Et c'est là où c'est intéressant. Mais encore une fois, on dit toujours use it or lose it. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu fais tes exercices neuro, comme on peut l'appeler, tu vois, RNP, et qu'après, toute ta journée, t'es couché dans ton canapé à manger des chips, bah, à un moment donné, je suis désolé, t'auras pas forcément de gains, tu vois. C'est comme le mec qui dit, ouais, je vais perdre du poids, je vais faire 30 minutes de sport et que tout le reste de sa journée, il est dans son canapé à manger des chips en regardant Netflix. À un moment, et je perds pas de poids. Oh, tu m'étonnes. Tu vois, c'est un peu le même principe. C'est, à un moment donné, c'est que si on te donne accès à de nouvelles choses, il faut que tu puisses l'utiliser. Tu vois. Et là où c'est intéressant, on va prendre l'exemple de la mobilité que tu as dit avant. Donc la chaîne postérieure, c'est peut-être un petit peu moins, mais au niveau de l'épaule, à un moment donné, il y en a beaucoup qui ont des restrictions au niveau de l'épaule ou des douleurs. Je travaille beaucoup avec des crossfitters, c'est pour ça. Et à un moment donné, c'est bien beau d'avoir gagné ta mobilité d'épaule avec l'exercice neuro. Mais à un moment donné, si tu vas jamais dans ces amplitudes-là, ben elle te sert à rien. Et toujours use it or lose it, ben ton cerveau, il va pas dire ben j'en ai pas besoin de cette mobilité, ben je m'en fous, je la laisse de côté. Donc ce qui est intéressant, c'est de combiner avec l'entraînement et c'est là où tu as le plus de résultats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec les sportifs, encore une fois, ce que j'aime bien avec la neuro, c'est que c'est un échauffement et qu'on peut utiliser dans les fillers, c'est-à-dire dans la séance. Mais encore une fois, c'est pour que tu puisses avoir plein accès pour ta séance. Mais encore, après, il faut que tu ailles dans ces amplitudes-là. Donc encore une fois, au niveau de l'épaule, c'est à un moment donné, tu fais aucun exercice, des dips ou même en pleine amplitude, n'importe quoi. Si tu y vas jamais, ben c'est sûr qu'à un moment donné, en gros, j'exagère, ton cerveau dit pourquoi je vais y aller? Ça me sert à rien d'y aller, tu y vas jamais.
Et donc toi, cette routine d'exercice, tu conseilles plutôt de la faire justement en échauffement pour avoir des bénéfices dans la séance et les ancrer plus durement dans le cerveau?
Alors, il y a trois types de séances. En fonction de ta population, en fonction de la personne, enfin plein de choses. On va dire que tu auras des exercices qu'on peut faire au courant de toute la journée. Ok? Donc, tu te lèves le matin, tu les fais, à midi, tu les fais. Ensuite, il y a d'autres exercices que tu peux faire en échauffement de séance. On appelle ça des exercices haute performance qui vont vraiment catalyser, qui vont vraiment augmenter toute ta performance pour ta séance. Et ensuite, des fillers. Donc, les fillers, c'est ce que tu mets en exemple. Tu vas faire en développé couché. En A1, A2, tu vas faire des tractions. Ben, entre A1 et A2, tu as, par exemple, 2 minutes de récupération. Ben là, au lieu d'attendre comme ça, bêtement, ben, tu fais des exercices neuro. Et en fait, l'idée, c'est de potentialiser. Là, c'est plus par rapport à la personne, mais aussi par rapport à l'exercice qui va suivre derrière. Donc, il y a trois types d'exercices. Donc, c'est pas tout le temps tu les fais. Tu les fais soit dans le cours de la journée, soit en échauffement, soit en fillers. Et là, ça dépend de la personne, en fait. Qu'est-ce qui marche le plus pour toi et par rapport à la séance, et faut qu'on sache ton plan d'entraînement à ce niveau-là.
Et est-ce qu'il peut y avoir, parce que donc là, tu parles de bénéfices, par exemple, pour des crossfitters qui ont un problème de mobilité avéré dont ils ont conscience au niveau de l'épaule, par exemple. Si toi, tu as l'impression de ne pas avoir spécialement de limitations, est-ce que tu peux quand même avoir des bénéfices à faire de la neuroposturo?
Alors, disons que de manière générale, la neuroposturo, c'est marrant parce que c'est Rudy qui dit toujours comme ça, neuroposturo.
Mais en fait, parce que c'est pas comme ça qu'on dit?
Bah en fait, il y a pas vraiment de nom. Nous aujourd'hui avec Labo, on a déposé le nom programmation neuroposturale, mais neuroposturo en fait, ça rejoint, c'est juste pour dire c'est un courant de neurologie fonctionnelle.
OK.
Et posturo, mais en fait, aujourd'hui même posturologie, il y a pas de nom. C'est-à-dire si tu veux t'appeler posturologue, le seul moyen aujourd'hui qui te permet de mettre une plaque posturologue, encore une fois, je te dis ça par rapport à la France, c'est d'avoir fait le DU. Et pour faire le DU de posturologie, il faut que tu aies fait un doctorat. Autant dire qu'il y a très peu de personnes qui l'ont fait.
Voilà,
donc voilà, aujourd'hui, tout le monde peut se dire posturologue, c'est ça. Et du coup, j'ai oublié ta deuxième question, c'était quoi?
C'était de savoir si les bénéfices que des sportifs auraient avoir, des sportifs avec des limitations de mobilité avérées pourraient avoir avec de la neuroposturo. Est-ce que quelqu'un de lambda ou quelqu'un de lambda mais qui fait du sport quand même, mais moi tu vois par exemple je fais pas mal de sport, j'ai pas l'impression de rencontrer beaucoup de problèmes de mobilité, si ce n'est effectivement sur ma chaîne postérieure qui est parfois un peu raide, j'ai les ischios un peu raides, etc. Mais à part ça, tu vois, j'ai une bonne mobilité d'épaule, etc. Est-ce que tu penses que pour autant j'aurais des choses à gagner avec la neuroposturo?
Disons que la reprogrammation neuroposturale, donc RNP pour faire simple, elle a d'objectif que pour régler un problème moteur, entre autres. Enfin, on peut aller sur d'autres choses, mais on va dire que moi, c'est comme ça que j'utilise. C'est pour, les gens, ils viennent me voir, c'est pas parce qu'ils ont un problème de... On va dire que, de manière générale, il y aura aussi des incidences au niveau cognitif et émotionnel, parce que les trois sont reliés. Et les gens, ils viennent pas me voir personnellement parce que j'ai des problèmes de 10 ou de concentration. D'accord? En tout cas, c'est jamais arrivé. Est-ce qu'il y aura un impact dessus? Oui, mais aujourd'hui, c'est pas arrivé. C'est-à-dire que les gens viennent me voir parce que j'ai un problème moteur. Dans ce problème moteur, c'est soit je veux augmenter mes performances ou alors diminuer mes douleurs. Même si, à la fin, c'est la même chose, pour faire simple, hein, c'est déplacer ton curseur de performance vers la performance et pas vers le mode survie, même si à la fin, c'est la même chose, mais c'est régler un problème moteur. On va dire que si aujourd'hui, tu es content de ce que tu as, j'ai envie de te dire, ça, pourquoi tu viens me voir? Si tu n'en vois pas l'objectif, c'est que si les gens viennent me voir, c'est qu'ils veulent quelque chose en plus. Encore une fois, ça me tire un petit peu au dos de temps en temps. Ok, mais donc tu cherches quand même quelque chose à avoir, tu vois.
Oui, mais ça, on a tous des petits problèmes, des petites douleurs, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on les relie intellectuellement à de la posture, tu vois. Quelqu'un, par exemple, ma mère, elle a parfois mal au dos, etc. Je pense pas que dans sa tête, elle va se dire, ah ben, j'ai un problème de posture, il faudrait peut-être que j'aille voir un posturologue, tu vois.
Mais parce qu'encore une fois, la posture, pour moi, encore une fois, c'est pas parce que t'as une mauvaise posture que tu vas forcément avoir des douleurs. C'est une mauvaise, la posture que tu as, c'est que celle que tu peux avoir en fonction de tes informations. Encore une fois, ce que je disais, la posture, c'est un output. Mais encore une fois, tout ça, ce sera que dépendant de ton système d'interprétation et de ton système d'input. Si ça, c'est pas bon, et c'est là où c'est problématique. Encore une fois, c'est si tes afférences ne sont pas bonnes, tu vois, je reprends le curseur de performance que je développais tout à l'heure. On va dire à droite, au maximum de la performance, à son paroxysme, c'est la performance pure. D'accord? Donc, santé immunitaire, blablabla. Mais à l'opposé, tu auras les douleurs. Parce qu'encore une fois, la douleur, c'est juste un mécanisme de protection que ton cerveau, il a pour te dire quelque chose ne va pas, donc je te mets une douleur pour éviter que tu y ailles. C'est aussi simple que ça. C'est pas parce que tu as une hernie que tu vas avoir une douleur, et c'est pas parce que tu as une douleur que tu vas avoir une hernie. C'est juste ton système qui te dit, je te mets une douleur parce que c'est pas bon pour toi. Je vais reprendre encore plus simple au niveau de la mobilité d'épaule. Donc les gens, ils le voient pas, mais toi tu le vois, donc c'est plus facile, tu vois. Je vais faire une rotation interne de l'épaule. Je suis limité, par exemple, à 45 degrés. Ce qui est pas le cas, mais c'est pour imaginer. Je suis limité à 45 degrés. J'ai mal. Mais pourquoi t'as mal? C'est juste parce que ton cerveau, il te dit, je te mets une douleur parce que si tu vas plus loin, à 90 degrés, potentiellement, je dis bien potentiellement, tu peux te faire une déchirure ou un mécanisme lésionnel, arrachement ligamentaire ou tout ce que tu veux, potentiellement, encore une fois. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, je te mets une douleur pour éviter que tu ailles. Parce que si tu as mal, ben, tu vas pas y aller. Et c'est simplement ça, la douleur. Ton système cherche juste à te protéger.
Et en réalité, toi, ce que tu veux dire, c'est qu'il a potentiellement tort d'essayer de te protéger parce que cette amplitude, elle pourrait être tout à fait saine pour toi. Et c'est simplement un mode sécurité qui est trop sécuritaire.
Exactement. Encore une fois, on dit bien potentiellement.
Potentiellement.
Mais oui, c'est ça. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'en fait, tu me disais que tu gagnais rapidement en mobilité. Toi, les gens disent, ouais, j'irai sous la chaîne postérieure parce que j'ai les ischios raides. Oui, pourquoi? À un moment donné, on va prendre le problème à l'envers. Pourquoi tes ischios te se raidifient? Pourquoi est-ce qu'il cherche à les raidir en sachant qu'il n'a pas besoin? Donc, encore une fois, on disait qu'il y avait, encore une fois, ça va être ultra simple ce que je vais dire, mais de manière générale, ton système cherche à, à fuir ou à combattre. Mécanisme de protection. Avoir des ischiorettes, c'est quand même cool pour aller courir quand t'es poursuivi par un lion. Il y aura beaucoup plus de rebonds, beaucoup plus de plios, et donc tu pourras potentiellement courir plus vite. Donc c'est quand même intéressant. Donc est-ce que peut-être tu serais plus en mode survie que performance? Peut-être. Et peut-être que si on arrive à recalibrer ton système plus en mode performance, ben avec tes ischios, ben ah, il y a pas de menace. Potentiellement, je peux baisser un petit peu le tonus et forcément, je gagne en mobilité de la supply chain postérieure. Parce qu'on a recalibré, on a reparamétré ton système de prédiction pour dire c'est sécuritaire, c'est safe, tu peux y aller. Let's go.
Hyper intéressant. Et tu disais que tout ça, tous ces programmes-là se personnalisaient puisqu'il dépend de ta limitation de départ et puis on n'est pas sensible aux mêmes exercices, etc. Comment est-ce que ça se passe comment est-ce que je peux travailler là-dessus? Comment est-ce que je peux avoir un programme personnalisé? T'es un peu le seul à faire ça? Il y en a d'autres? Tu fais du coaching à distance en vidéo? Je t'envoie des photos de moi pour te montrer mes limitations, des vidéos de moi pour te montrer mes limitations et tu me concoctes un petit programme sur mesure?
Alors, effectivement, c'est individualisé, comme je te disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, t'as fait le réflexe vestibule oculaire et toi, ça a matché, comme dit, ça va peut-être pas matcher à tout le monde. Mais après, on a quand même détecté, et on va dire, il y a des continuums de progression pour chaque exercice et plus on va aller dans des exercices complexes et on sait que beaucoup de gens ne les auront pas acquis parce qu'ils n'auront pas la base qui est acquise. Après, comment ça fonctionne? On va dire de manière générale, avant le Covid, je marchais que en présentiel. Depuis le Covid, ben, il y a un peu plus de online. Donc, est-ce que je suis seul à faire ça? Non, je suis pas le seul. Tu vois, aujourd'hui, ça va faire 3 mois maintenant, on a créé une formation avec deux amis, donc Romain et Adrien, qui s'appelle Labo RNP. Aujourd'hui, on a 70 personnes qui sont en formation avec nous sur toute cette pédagogie. Enfin, toute cette pédagogie, sur tous ces protocoles, on va dire, sur différents modules. Donc, est-ce que je suis seul? Non, il y a au moins 70 personnes. De moins, comment moi j'envisage la chose? Parce qu'en une fois, il y a différents courants. C'est un peu comme ça qu'on fait. Après, on a aussi fait des bilans en ligne où c'est pas des photos, c'est des vidéos, c'est voir comment tu bouges. L'idée, c'est de faire différents tests moteurs, encore une fois, des actes moteurs output, d'accord, qui vont permettre de voir toutes tes limitations, gauche, droite. Et encore une fois, la chose principale, c'est pourquoi tu viens me voir. Tu vois. Ensuite, l'idée, c'est on va analyser ça. On analyse, écoute, dans le bilan, il y a plus de 50 ou 60 vidéos à fournir qui nous donnent une bonne cartographie de tout comment ton système y fonctionne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un test simple te permet de rien dire. Tu vois, on va prendre un test moteur. Tu vas faire rotation interne de l'épaule. Il peut y avoir à peu près 500 explications possibles à cette limitation de rotation d'épaule. Donc l'idée, c'est de combiner avec ce test, plus ce test, plus ce test, et ensuite tu fais un melting pot, et en fait tu corrèles toutes ces données pour pouvoir comprendre quel est ton système le plus défaillant, et après on travaille dessus. Donc il y a possibilité effectivement en ligne, comme je te disais, ou alors par rapport à la bonne, on a un recueil, on va dire, de chaque personne qui sont formées chez nous, et il y a toujours possibilité d'avoir un bilan présentiel. Ça dépend, les gens, il y en a qui sont plus en ligne, il y en a qui sont plus en présentiel, donc ça dépend un petit peu des gens.
Ok, et donc du coup online, je te fais 60 vidéos de mes différents où je teste plusieurs exercices pour te montrer éventuellement mes limitations de mobilité, et toi tu vas me faire un programme sur mesure avec quelques exercices sélectionnés.
C'est ça.
Que je pourrais reproduire quotidiennement chez moi.
C'est ça. L'idée, c'est de, alors même si c'est online ou en présentiel, ce qui est le plus important, c'est la communication entre les deux. C'est-à-dire, c'est pas donner un programme et en fait on se revoit dans 3 mois. Ah, c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme je te disais, il y a des règles dans la neuroplasticité. C'est-à-dire que, pour que ça ait lieu, il y a différents paramètres d'entraînement qui doivent entrer en compte. C'est comme l'entraînement musculation. Il y a de l'intensité, il y a du volume, mais c'est exactement la même chose au niveau neuro. D'accord? Et, à un moment donné, si cet exercice est trop facile pour toi, si t'as pas de système de progression qui va dans la continuité, c'est que tu perds ton temps. Et c'est pour ça que la communication, elle est primordiale. Moi, avec les gens, quasiment toutes les semaines, au moins toutes les semaines, j'aurais écrit un message, comment ça va? Est-ce qu'il faut changer quelque chose, etc. D'accord? Et au bout d'un moment, il faut changer le programme. C'est comme tout, c'est comme musculation. Tu vas pas garder le même programme de musculation pendant toute ta vie. C'est la même chose. C'est que tu as un système de progression. Et encore une fois, c'est basé sur tes, entre guillemets, faiblesses neuro du moment. Ben, ta faiblesse neuro aujourd'hui n'est pas la même qu'elle sera dans 3 mois, comme elle était la même il y a 2 semaines. Pour extrapoler, tu vois. Donc l'idée, cette communication, elle est super importante parce que ça permet tout le temps de réguler ton programme d'entraînement pour avoir le maximum d'objectifs le plus court possible. Parce qu'encore une fois, potentiellement, je vais exagérer, hein, si je te veux client à vie, ben, je te fais un programme tous les 3-4 mois, tranquille, je prends pas de nouvelles et puis voilà, j'ai un client à vie, c'est trop cool, tu vois, niveau business, c'est cool. C'est pas ma philosophie, c'est pas forcément mon éthique, mais enfin voilà.
Et c'est quoi comme type de clientèle que tu as principalement? C'est des athlètes qui cherchent à améliorer leur performance ou tu as aussi des gens entre guillemets normaux?
Normaux, j'aime bien.
C'est pour ça que j'ai mis entre guillemets.
Après, j'aime bien, des fois, comme on dit, un peu à l'américaine, gen pop, tu vois, population générale. Mais on dit, disons, dans ma clientèle, on va dire, quand même, allez, 60 à 70% de sportifs. Encore une fois, quand je dis sportif, ça peut être pro. Bon, il n'y aurait pas 70% pro, hein, mais on va dire de tout niveau. Et après, non, même pas plus, 80 ou 85%. Mais c'est très rare que j'ai des personnes qui sont à 100% sédentaire. Pourquoi? Comme je disais avant, c'est que la neuro, c'est bien, le sport, c'est bien, mais c'est, ce qui est top, c'est quand tu combines les deux. Parce qu'encore une fois, c'est que si tu fais juste ta neuro et que tu fais rien de ta journée, ben, par expérience, je sais que les gains seront beaucoup plus limités. Donc, c'est pour ça que même mon avatar, on va dire que moi, je cherche beaucoup plus des sportifs. Une fois, tout de suite, limite, tu fais juste trois, quatre fois par semaine. Au moins, je sais que t'es actif et que ton cerveau, il s'active. Tu vois, ça, c'est cool. Mmh. Versus, si tu fais vraiment rien de ta journée, ça m'intéresse pas parce que je sais que tu seras beaucoup plus limité dans les résultats. Et on cherche toujours le maximum de résultats en le moins de temps possible. Donc, à un moment donné, on essaie de mettre tout en œuvre pour pouvoir faire en sorte que ça aille mieux, quoi.
Bon, après, ton idée de le faire pendant les temps de récupération, c'est plutôt une bonne idée. Ça te prend pas beaucoup plus de temps dans ta journée et ça te permet potentiellement de gagner en performance.
En théorie. Mais tu verras qu'en pratique, les gens, des fois, tu dis un échauffement, allez, 5 minutes de neuro. Ouais, t'as fait, ouais, ça dépend. Bon, après, ça dépend toujours du type de personne, tu vois. Mais encore une fois, c'est, tu vas aller dans le, pars toujours du principe que la personne, si elle vient de payer, et si elle continue à te payer, c'est qu'elle a un problème moteur qu'elle cherche à résoudre. Et si tu leur apportes un premier élément de réponse, puis un deuxième, puis un troisième, elle voit les résultats. Et elle aura beaucoup plus de chances d'adhérer à ton programme. Même en musculation, on dit toujours que la majeure partie de la réussite d'un programme d'entraînement, c'est le fait que la personne adhère à ce programme. Et en neuro, c'est la même chose. Imaginons maintenant que la personne vient me voir parce qu'elle a un problème d'épaule. Moi, en tant que posturologue, je trouve qu'elle a un problème à la cheville. Je lui aurais que sa cheville, même pas l'épaule. Ben, elle va plus venir. Elle n'a rien à foutre sa cheville. Aujourd'hui, son problème, c'est l'épaule. Donc, mon objectif prioritaire, c'est régler son épaule. Même si je vois qu'il y a un souci à la cheville. Mon objectif, c'est, elle a mal là, ben, je lui règle ce problème-là. Et, comme ça, en plus, elle adhère à ce programme. Elle adhère au programme. Elle fait les exercices. Elle a résultat. Et, comme on travaille sur un système qui est systémique, on peut appeler ça comme ça, ben, ça va être bonifié sur tous les aspects de sa vie. Sur les autres articulations, sur la cognition, etc., etc. Tu vois, je vais prendre l'exemple. Et ce matin, c'est pour ça que j'avais un peu de retard au podcast, j'avais un rendez-vous avec un client. Ben, je sais que potentiellement, avec la neuro, on améliore l'acuité visuelle, donc la vision. Ben, j'en parle pas, je le sais, mais on le parle pas. Et elle me dit, depuis qu'on commence, ben, je mets plus mes lunettes. C'est cool, tu vois. Tu vois, au-delà des espérances de la personne. Et ça, c'est cool, tu vois. Au-delà des espérances de ce... Elle vient pas me voir pour ça, elle vient pas, elle a rien à foutre de ça, tu vois. Mais je sais que moi, de par ce qu'on fait, on va améliorer son acuité visuelle. Et quand tu vas au-delà des espérances des personnes, tu dis, bon, c'est bon, la personne, elle adhère au programme et va faire les exercices, hein, y a pas de problème.
Hein. Super intéressant. Bah après, c'est pas forcément qu'elle en a rien à foutre, c'est peut-être aussi qu'elle se dit pas potentiellement qu'elle peut réussir à régler ses problèmes de vision avec de la posture, tu vois.
Mais parce que moi non plus, j'en parle pas. Parce que, encore une fois, à la base, je suis coach. Les gens viennent pas me voir. J'ai des problèmes de concentration. J'ai ma vue qui baisse. Les gens ils viennent pas me voir pour ça. Ils me disent Seb j'ai mal ou Seb j'essaie d'augmenter ma perf. C'est aussi simple que ça. Tu vois. Ou j'ai un problème moteur. C'est encore une fois, je sais que ça peut et je sais qu'il y en a qui font de par la méthode RNP qui travaille beaucoup avec les enfants en difficulté d'apprentissage. Moi pas, mais je sais que encore une fois on travaille sur le même système. Donc c'est 100% cohérent. Mais les gens viennent pas me voir pour ça et c'est pas forcément ce que je recherche non plus.
Ok. On dit beaucoup que la position assise est délétère. Il y a même des scientifiques qui disent qu'elle tuerait plus que le tabac qu'elle est responsable de beaucoup de problèmes de dos. Toi, tu disais tout à l'heure que t'avais des gens qui passaient leur journée debout sur des routes, etc., et qui au final avaient eux aussi des problèmes de dos. Alors, est-ce que selon toi, il y a une solution? Comment est-ce qu'on peut se prémunir de ce mal du siècle et éviter les problèmes de dos?
Alors, La douleur, c'est toujours, comme je disais avant, c'était un système de protection. C'est que c'est un moyen que ton cerveau est là pour communiquer, pour dire que quelque chose ne va pas. Ok? C'est son par rapport à des menaces perçues ou réelles. Faut savoir qu'aujourd'hui, le facteur numéro un de douleur au dos, c'est pas la chaise assise, c'est pas le sport, c'est le fait de ne pas aimer son boulot. Et ça, c'est scientifiquement prouvé, tu vois. Aujourd'hui, si t'aimes pas ton boulot, t'as de fortes chances d'avoir des problèmes de douleur au niveau du dos.
C'est dingue.
Ouais, c'est dingue, mais ouais, c'est ça. Donc, aime ton boulot et ça ira mieux. J'exagère, mais c'est ça. Mais encore une fois, être tout le temps en position assise, est-ce que c'est néfaste pour ton dos? Je dirais que oui. Est-ce que être tout le temps debout, c'est néfaste pour ton dos? Oui. L'idée, c'est tout le temps de bouger un maximum. Mais encore une fois, faut toujours se voir dans un système complexe qui fait que tout est interrelié. Être assis. Alors, je vais même aller à l'extrême. Il y a une personne qui est assise 3 heures par jour, elle a mal au dos. Pourquoi qu'il y a une personne à côté d'elle qui est assise 6 heures par jour n'a pas mal au dos? Donc, ce que je
veux dire. Elle aime son boulot.
Peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, c'est comme avec les exercices. Il y en a qui vont matcher pour toi, il y en a qui vont pas matcher pour d'autres. À l'inverse. Et c'est exactement la même chose. C'est pourquoi que moi j'ai mal et pourquoi que lui fait exactement la même chose? Ben, il a pas mal. Donc, peut-être parce que son système de prédiction, il est plus basé sur le mode survie que sur la performance. Donc, est-ce que être tout le temps assis est néfaste et peut créer, on va dire, des douleurs de dos? Oui. Mais, à mon sens, ce sera beaucoup plus exagéré et beaucoup plus vite présent pour une personne qui, de base, a un système qui est totalement déréglé de par le fait qu'il soit plus en mode survie que sur le mode performance. Donc, qu'est-ce que je ferais avec cette personne-là? Ben, exactement la même chose. Régler son problème moteur de par son système de prédiction et de input, tout simplement. Parce que mon but, c'est toujours régler un problème moteur de la personne.
Ok, hyper intéressant. Et dans un de tes articles, justement, concernant le mal de dos, tu montrais un exercice qui était le dos creux, dos rond, là. Oui. Tu vois, dos rond. Ça paraît con comme exercice. Comment est-ce qu'un truc aussi simple peut potentiellement solutionner des problèmes de dos ou contrecarrer les effets, justement, délétères de la position assise?
Alors, de manière générale, on travaille sur 3 systèmes d'input, d'afférence, on va dire, principaux. Tu auras le système visuel, comme on le disait avant, le système vestibulaire et le système proprioceptif. Tout ce qu'on voit classiquement dans le monde du fitness, tout ce qui est mobilité, dos rond, dos creux et des choses comme ça, c'est que de la proprioception. Donc, ça veut dire quoi? Que tu travailles sur un seul système de prédiction qui est la proprioception, ou aller au sens large, la somesthésie, comme ils l'appellent des fois dans le monde scientifique, en comprenant le tactile, etc. Donc, en fait, tu agis juste sur la proprioception. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as plein d'articulations. Tu auras le poignet, tu auras les doigts, tu auras le coude, tu auras l'épaule, tu auras le cervical, tu auras la mâchoire, tu auras le thoracique, tu auras lombaire, etc. Bon, pareil pour le membre inférieur. Sur chacune de ces articulations, en travaillant sur cette mobilité-là, comme le dos rond, dos creux, donc tu vas essentiellement travailler au niveau thoracique, tu travailles juste une composante, une articulation d'une composante du système. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce que ça peut améliorer? Ça peut. Si c'est un des facteurs limitants. On sait quand même que les exercices de mobilité au niveau de colonne vertébrale ont plus d'impact, on va dire, généralement, que les articulations distales. Donc, potentiellement, que le dos rond, dos creux, il y a bien marché pour toi, mais parce qu'en fait, tu agis juste sur la proprioception. Mais encore une fois, il y a encore 2 autres systèmes. Si tu agis que sur un, ben, peut-être que tu vas régler ton système proprioceptif sur ça. Mais si ton système proprioceptif, il est biaisé parce qu'il est adaptatif sur un système visuel et vestibulaire qui est défaillant, ben, tu vas régler un problème, mais tu vas pas la cause du problème. Parce qu'il s'adaptera toujours sur 2 autres systèmes qui sont défaillants. Mais est-ce que ça peut aider? Oui.
Tu dis que ça peut aider si t'as une limitation. Est-ce que tu penses pas que justement travailler la proprioception, même le vestibulaire, etc., peut avoir un intérêt même indépendamment de toute limitation, simplement en entretien? Par exemple, le fait de faire des exercices les yeux fermés sur une jambe, ce genre de choses, ou même des exercices de mobilité, type, je sais pas si tu connais les mobilisations articulaires contrôlées de Christophe Cario, par exemple, tout genre de choses. Est-ce que tu penses que ça peut pas avoir un intérêt de façon en termes de prévention?
Si, mais encore une fois, si. les oh, j'ai oublié le nom là de Cario, merde,
les Mac.
Ouais, les Mac, voilà, c'est ça. Ben, c'est quoi? C'est de la proprio. Et c'est bon. Ouais. Encore une fois, il y a pas forcément, même s'il y aurait une hiérarchie, on va dire qu'il y a tout ce que tu fais peut être bon pour ton système. Mais encore une fois, avec les Mac, tu agis que sur la proprioception, même si la proprioception est hyper importante. Mais ça reste que sur un paramètre. Et il y en a encore toujours, et tu vas toujours en occulter 2 autres. Et ça, l'idée, c'est toujours travailler sur tous. Encore une fois, on va aller à l'extrême. Travailler que sur le visuel et que sur le vestibulaire, ben, et pas sur le proprioceptif, c'est que tu passes à côté d'un truc. Il faut que tu travailles sur tous les systèmes pour qu'ils travaillent tous de concert en donnant la bonne information. On parle du système de protection pour la survie. Imaginons que ton oreille interne dise A, tes yeux disent A, et ton, allez, la proprioception au niveau de l'épaule dit C. Bah, à un moment donné, ton cerveau, il dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui me dit ça? Lui me dit ça et lui me dit autre chose. C'est quoi qui est juste? Bah, je vais trouver peut-être un compromis entre les deux. Mais au lieu de chercher performance, je vais toujours vers le mode survie. Et tous les trucs qu'on disait avant.
Et tu disais aussi que, je reviens un petit peu en arrière, au début du podcast, t'expliquais qu'un enfant, s'il portait tout le temps des chaussures à un an, ça risquait justement de limiter sa connaissance de son environnement, notamment proprioceptif par ses pieds, etc. Est-ce que tu as des conseils pour aider le développement neuromoteur d'un enfant? Je te demande ça parce que je suis papa depuis peu et donc j'aimerais donner à ma fille le maximum de chances pour être bien en bonne santé dans sa vie plus tard. Si je peux commencer dès le début par ne pas faire par avoir de bons réflexes, ça serait déjà pas mal.
Donc déjà félicitations.
Merci.
Mais de manière générale, et c'est ce que j'aime bien, je crois que c'est l'école Montessori, tout ce qui est motricité libre, ça c'est cool. Disons que c'est lors du quatre pattes et que l'enfant, c'est la première fois qu'il va mettre tous ses systèmes donc sensoriels en concordance. Okay, donc ce qu'il faut, c'est laisser le plus possible la manière la plus naturelle possible, c'est-à-dire que laisser l'explorer, faut le laisser ramper. J'exagère, quand il tient son stylo, faut le laisser tomber, des choses comme ça. Surtout pas mettre de gros chaussures, surtout pas mettre les youpala, comment ça s'appelle, les trotteurs.
Les trotteurs, ouais.
Ouais, surtout pas. Et tout ce qui peut inhiber sa motricité et l'exploration de son environnement peut être néfaste pour lui. Parce qu'encore une fois, ta motricité, elle se met par, on va dire, tu cours aussi bien que tu marches, que tu tiens aussi bien debout, que tu as aussi bien marché à quatre pattes, que tu as aussi bien rampé. Donc en fait, on parle de système de progression et c'est exactement ça. À un moment donné, il faut que tu passes par le rampé, par le quatre pattes, par le retournement, par la station debout, etc. Faut que tu passes par ces étapes de développement parce que c'est à ce moment-là que ta motricité se met en place. Et quand je parle de motricité, encore une fois, c'est que c'est tout le temps un système en tripode, c'est-à-dire que tu auras un aspect moteur, postural, cognitif et émotionnel. Donc l'un, si tu passes pas par l'un, tu vas inévitablement avoir des répercussions négatives sur l'autre. Et l'idée, c'est ça, c'est laisser ton enfant le plus libre possible de sorte à ce que sa motricité se mette en place, pour que sa cognition se mette en place et que sa gestion émotionnelle se mette en place.
Et, ok, super.
Et tu vois, il y a 72 réflexes, j'allais dire 72 parce que je suis en Suisse, tu vois, mais 72, 72 réflexes qui sont à la base de notre système. Et c'est durant cette enfance que ces réflexes se mettent en place. Donc laissons-le développer pour pouvoir intégrer ses réflexes. C'est ça.
Ok, super, super intéressant. Et une fois devenu adulte, s'il a envie de faire du deadlift, c'est une bonne ou une mauvaise idée?
Ah, bien sûr.
Un exercice qui fait pas mal débat, qui potentiellement est considéré comme très dangereux. Je sais que tu as écrit un article sur le sujet qui potentiellement le défendait. Est-ce que tu as un avis à nous partager là-dessus?
Aujourd'hui, je savais même pas qu'il était considéré comme dangereux, tu vois, c'est ça qui est drôle. Mais aujourd'hui, tout est dangereux et c'est ce qu'on disait avant. C'est comme les Jefferson Curl, tout le monde dit qu'il est dangereux. Le Jefferson Curl, tu vois ce que c'est?
Du tout.
C'est en gros, t'es debout, c'est tes jambes, tu descends, en gros, tu sais, tout ce qu'on te dit de pas faire, en gros, c'est ça. En gros, je vais te montrer une vidéo. Et il y a aussi tout ce qui est, le genou ne doit pas dépasser la pointe de pied, etc., etc. Si tu le fais pas, alors outre les aspects techniques, etc., etc., et les consignes de sécurité qui vont être là-dessus, je vois pas en quoi il est dangereux. Encore une fois, à un moment donné, si t'es toujours dans s'il y a des choses que tu ne fais pas, tu pourras jamais y aller. Tu vois, comme le genou ne doit pas dépasser la pointe du pied.
Tu es là. Tu parles de ça en squat?
Les gens le disent en squat, mais c'est vrai dans la vie de tous les jours. C'est qu'à un moment donné, tu vois, si tu n'y es jamais allé, et c'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit, aujourd'hui, dans beaucoup de les cours collectifs, ils disent encore ne pas dépasser la pointe de pied. Le problème, c'est que si tu n'y vas pas, ben, regarde juste comment tu montes ou descends un escalier, il y a ta pointe de pied qui dépasse, ton genou qui dépasse la pointe de pied. Mais là, n'est pas le débat. Ce que je veux dire par là, c'est que...
Fais des maisons de plein pied.
C'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu n'y es jamais allé, c'est qu'à un moment donné, quand tu vas monter ou descendre des escaliers, bah, tu vas y aller. Tu le savais pas, mais tu vas y aller. Et comme ton système n'est pas prêt à ces amplitudes-là, bah, il se dit, oh là, il y a peut-être danger. Et du coup, il peut y avoir des compensations sur plein d'autres étages, soit au niveau du genou, soit au niveau de la cheville, soit au niveau de la hanche ou plein d'autres endroits. Et c'est là le but de la proprioception et l'intérêt des MAC, des choses comme ça. Ce qui est cool, c'est que tu vas dans des grosses amplitudes. Et en fait, pourquoi? C'est, tu vas créer une carte de mouvement, d'accord? Donc là, on parle que de la proprio. Hein. Tu vas créer une carte de mouvement beaucoup plus large qui fait que tu vas être beaucoup plus résilient. Parce que, pourquoi? Parce qu'une fois que tu pourras y aller dans ces amplitudes-là, une fois que tu vas y aller de manière involontaire, tu vois, on va faire le plus simple, une entorse de cheville. Imaginons que tu as travaillé sur ton système à aller dans des amplitudes extrêmes, en inversion ou en éversion. Imaginons que demain, tu vas te tordre la cheville et que tu n'es jamais allé dans ces amplitudes-là. Bah, direct, boum, douleur ou entorse. Tu vas à l'extrême. Hein. Bah, forcément, ton système, il n'y a jamais allé. Il ne sait pas ce qui se passe dans ces amplitudes-là. À l'inverse, si tu entraînes ton système à aller dans ces amplitudes extrêmes, potentiellement, si tu te fais une petite foulure de cheville, bah peut-être que tu auras pas mal. Parce que pourquoi? Parce que ton système, il aura été beaucoup plus résilient, il aura trouvé des mécanismes internes pour pouvoir se protéger de suite et pas de douleur. Tranquille, j'y étais déjà. Je sais ce qui se passe dans ces amplitudes-là. Et dans un système beaucoup plus résilient qui sera beaucoup plus en mode performance. Et c'est ça le problème avec le deadlift ou avec les genoux qui doivent dépasser la pointe du pied. Si tu y vas jamais, évidemment que ça peut être potentiellement dangereux si tu y vas jamais. Le jour où tu y iras, malencontreusement, bah là, ça va être problématique pour toi. Créer un système fort ou un résilient, adaptable, ou quelque chose qui est tout fragile ou qui peut rien faire, tu vois.
Mais du coup, c'est y a pas mal de kinés, par exemple, qui disaient que pour ramasser un objet par terre, il fallait toujours essayer de garder le dos plat, etc. Si on suit cette théorie, ça serait peut-être pas si con de se baisser simplement, donc de voûter le dos pour ramasser un objet, parce que ben ça permet de solliciter différemment la colonne vertébrale et potentiellement de lui apprendre à être sécuritaire sur ce type d'amplitude.
Oui, ça fait longtemps que j'ai plus entendu de kiné dire ça. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais non.
Non, mais c'est peut-être moi aussi qui ai des informations qui datent.
Ouais, non, bien sûr. Mais après, il y en aura toujours, mais j'en entends pas forcément parler. Mais après, c'est comme tout. Il y aura des bons kinés, des mauvais kinés, comme des bons coachs, des mauvais coachs, des bons médecins, des mauvais médecins, des bons carreleurs, des mauvais carreleurs. C'est tout le temps la même chose. Mais le mec qui dit ça, tu dis, Marc, t'as rien compris, quoi. Enfin, t'as un dos, t'as beaucoup de vertèbres, et tu les empêches de bouger. À ton avis, pourquoi on t'a pas mis une barre alors à ce point-là? Tu vois, comme l'humérus, à un moment donné, il est droit. Pourquoi t'as pas mis ça dans le dos si tu veux qu'il soit droit? C'est à l'encontre de la physiologie humaine, en fait. Je vais aller à l'extrême, mais c'est ça. Hein.
T'as tout à fait raison. Et toi, personnellement, est-ce qu'il y a des routines, des hacks, des petits outils que tu utilises dans ton quotidien qui te permettent d'être plus efficace, plus performant dans le sport ou dans ta vie de façon générale, même intellectuellement, en neuroposturo ou même autre chose? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour être la meilleure version de toi-même?
Oula. Alors là, on pourrait faire un deuxième podcast. Non, j'exagère. Mais je marche beaucoup, beaucoup, beaucoup par routine et par habitude. Et ce qui fait que j'ai une routine matinale, j'ai une routine du soir, j'ai dans mes yeux.
Tu veux la raconter rapidement?
Ouf, rapidement.
Ou longuement, si tu veux.
Alors, c'est marrant parce que j'ai un autre podcast mercredi, on va me parler des routines. Donc c'est marrant, je me prépare, tu vois. Disons, le matin, je me lève, même heure, je bois mon petit verre d'eau. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est trouver une bonne fréquence de sons binauraux pour pouvoir ensuite, les faire, on va dire, des sons binauraux, faire quelques mouvements neuro et de mouvements rythmiques ou de mobilisation, donc en termes proprio. Voilà, pour faire simple, au niveau moteur, je parle. Les sons binauraux, moi, j'aime bien par intermittence, de temps en temps, quand je les ai tout le temps, j'aime pas. Encore une fois, faut se dire qu'il faut que tu trouves quelque chose qui est bon pour toi. Tu vois, aujourd'hui, moi, c'est ça qui me va bien. C'est-à-dire que je sais qu'il y en a, les sons binauraux, ils les écoutent toute la journée quand ils bossent. Moi, je sais qu'au bout d'un moment, ça devient nocif. Et si ça devient nocif, on va schématiser dans le mode survie. Et du coup, je serai pas productif parce que je serai plus dans le mode performance, tu vois. Donc, c'est un petit peu ça. Après, c'est mes routines avant, tout le temps, neuro, puis échauffement musculaire avant ma séance d'entraînement. C'est ça qui est marrant, tu vois. C'est que, vu que des fois, avant, Inch'Allah, je m'entraînais dans les salles d'entraînement, maintenant on peut plus, tu vois. Mais quand tu fais un échauffement neuro et qu'ensuite tu fais ton échauffement musculaire versus la personne qui fait ses mobilités habituelles, etc., et que t'as fini ton échauffement, t'as fini toutes tes premières séries, que lui a à peine fini son échauffement, tu dis, bon, il y a peut-être un souci quand même dans ton échauffement, tu vois. Enfin, pour toi, t'es bien. Parce qu'en fait, la neuro, ça te fait gagner du temps de ouf. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ils disent, ouais, mais ça va perdre du temps. Non, au contraire, tu gagnes du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ton échauffement musculaire, il est bon. Mais si ton cerveau, encore une fois, tu tapes sur internet, tu tapes qu'est-ce qui contrôle les muscles, il dit le cerveau contrôle les muscles. Donc entraîne ton cerveau avant d'entraîner les muscles. Donc en fait, c'est tout l'intérêt d'un bon échauffement, c'est d'abord qu'il y a une part neuro. Si t'as pas de part neuro dans ton échauffement, c'est que tu vas à l'encontre de plein de choses. Mais encore une fois, je vais pas dire neuro, c'est que RNP, etc. Non, la mobilité, comme tu le vois, encore une fois, comme ce qu'on a dit, c'est de la proprio. C'est une part de neuro, mais ça commence à être de la neuro.
Donc les mobilisations articulaires, par exemple, que tu peux faire en échauffement, ça rentre dans la neuro.
Bien sûr, ça rentre parce que c'est la proprio. Ça reste une partie. À mon sens, c'est peut-être le moins intéressant des trois systèmes, mais ça reste déjà une partie et c'est déjà très bien.
Et donc, si tu ajoutes quelques mouvements d'yeux et puis des mouvements de tête, mouvements de tête, en réalité, t'as travaillé sur les trois systèmes, quoi.
Tu travailles sur les trois systèmes. Est-ce que c'est les plus adaptés pour toi? Ben, ça faut tester. Mais en tout cas, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Après, je mets un bémol sur ça dans le sens où ce qui est super intéressant et ce qui est primordial, c'est de bien faire gaffe aux exercices que tu donnes. J'en ai pas parlé, mais parce que les gens, ils disent, ouais, je vais faire la neuro, trop cool, ouais, trop bien. Dans la neuro, on va dire, il y a deux catégories d'exercices. Exercice haute perf, exercice réhab. Haute perf, exemple, rotation interne de l'épaule, je vais faire mon exercice haute perf, je vais augmenter ma mobilité d'épaule. Je peux donner un autre drill, par exemple, je vais faire un exercice, une poursuite oculaire, et ça me fait régresser mon mouvement, donc ça fait un exercice réhab. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est un exercice qu'il ne faudra pas le faire en échauffement ou avant ta séance. Pourquoi? Parce que ça va être un exercice réhab et qui sera placé plus loin de ta séance. Et du coup, si tu le fais en échauffement de ta séance, potentiellement, et pour catégoriser, tu seras moins bon. Donc, c'est un peu à l'encontre de l'objectif de ta séance. Donc, voilà, okay. Pour une parenthèse.
Non, mais.
Là, les gens se disent, c'est comme tout. Ouais, c'est trop à la mode, je vais faire. Ouais, mais c'est peut-être pas fait pour toi. Ou pas ça, tu vois. Et c'est pour ça que les gens, ils se disent, ouais, aujourd'hui, on en parle quand même de plus en plus de la neuro. Et tout le monde dit, ouais, je vais faire. Ouais, mais trouve le bon truc. Parce qu'encore une fois, si ça te rend moins bon, tu vas à l'encontre de ce que tu recherches à faire. Et c'est pas forcément préjudiciable.
Ok, du coup, tu te lèves, tu fais un peu de neuro, mobilisation articulaire, échauffement, et tu t'entraînes à jeun, du coup?
Ah non, je m'entraîne pas tout de suite. Non, pardon. Ouais. Ah,
ça, non. C'est juste pour t'échauffer, ouais, pour ta journée.
C'est après, c'est ça. À l'époque, j'avais testé la méditation et puis ben j'ai un peu décroché pour diverses raisons. Après, j'aime bien faire tout le temps. J'ai une image qui est là. C'est pour même me fixer sur mon one thing, c'est-à-dire que avant mon petit déj, bon, je me lève à 4h, enfin 4h30, bref. Et du coup, ça me laisse pas mal de temps. Et l'idée, c'est que je fasse la chose la plus importante de ma journée. C'est-à-dire que si maintenant il y a rien d'autre que je puisse faire à part ça, ben, je suis quand même content. Tu vois, c'est vraiment cibler mon one thing. Tu vois, donc je prends ce livre, mon one thing. Et l'idée, c'est que je fasse vraiment ça pour être sûr que ma journée soit complète et que je sois satisfait de ma journée, quoi. Ce qu'on voit, ouais. Okay.
Et au moins, c'est une sorte de visualisation un petit peu.
Ah non, c'est le boulot. C'est pas mal. Peu importe ce que c'est, ça peut être bosser sur la formation, ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment bosser sur ma chose la plus importante de la journée. Comme ça, c'est
fait. Ah oui, ok, tu le fais. Ok, ok.
Ouais, et je le fais. Ouais, ouais, non, non, d'accord. Je le fais, tu vois. Donc, de sorte à ce que on ne sait pas comment la journée est faite, et au moins, je suis sûr que ça, c'est fait, quoi.
Ouais, je comprends.
Mais ouais, après, là, du coup, c'est... un autre cas, c'est à trop de trucs, tu vois.
Si tu te lèves à 4h30, tu te couches à quelle heure?
Bof, ça dépend. Après, je dis pas, la semaine dernière, j'étais en vacances, donc c'était un peu plus cool, mais ouais, 10h, 10h30.
Ouais, tu dors pas beaucoup, du coup.
Non, ça va.
Ok, et du coup, ça, c'est ta routine matinale. T'as d'autres petits hacks et outils. D'ailleurs, je te fais juste une parenthèse sur les sons binauraux. Moi, j'utilise une app qui existe aussi sur ordinateur. Ça s'appelle Brain.fm. Et justement, c'est des sons pour t'aider soit à être concentré, soit à être plus créatif, etc. Et l'avantage, donc c'est pas mal basé sur des sons binauraux, mais l'avantage, c'est que t'as aussi des musiques, tu vois, qui changent, etc. et qui sont plutôt sympas. Ça évite que ce soit trop redondant. Et ça te permet de choisir un son en fonction de ton mood aussi, ton état d'esprit, de l'état d'esprit dans lequel t'es. Du coup, tu pourras tester si tu veux.
Il y a aussi une autre qui s'appelle Calm, C-A-L-M.
Ah ouais.
Pas quoi. Et
okay.
Un peu dans le même truc, et tu peux aussi choisir tout ce qui est un peu, c'est dans du vent, de la pluie ou des choses comme ça.
Ok. Ouais, ok. Bah, j'ai jamais utilisé Calm, mais donc ok, très bien.
Donc, voilà.
Ok. Donc du coup, on était sur la liste de tes hacks et routines.
Ouais. Après, sinon c'est tout, mais c'est vrai que je marche beaucoup par routine de manière générale. Ça me permet de, tu sais, tout le temps même petit déj. C'est vraiment pas à l'extrême, tu vois. Tout le temps, je prends ça, puis ça, tu vois. Tout est Comme ça, je suis dans mes repères. Et puis, on dit toujours, on a un capital. Il y a une chose qu'il faut que j'améliore, c'est choisir ma tenue le soir pour le lendemain. Ça, je le fais pas encore. Parce qu'on dit toujours, on a un capital décisionnel dans une journée. Et l'idée, c'est que le matin, tu limites les décisions, on va dire, inutiles. Donc, tu choisis les décisions qui sont les plus importantes pour toi. Do more one thing, tu vois. Ça, je le garde tout de suite au début, la fraîcheur, et je suis focus dessus.
Mais je rejoins tout à fait dans cette logique de routine. Moi aussi, j'ai énormément de routines, de piaques, etc. Mes journées sont très millimétrées, très cadrées. Et certaines personnes pourraient trouver que c'est fatigant, que c'est trop de rigueur, que c'est pas assez impulsif, que ça manque de liberté. Et en réalité, c'est justement ce cadre-là qui me permet de me sentir libre pour tout le reste. Parce que je peux m'épanouir dans tout le reste sans devoir me poser de questions sur toutes ces choses-là qui sont hyper bien cadrées dans ma vie. Et donc, en fait, je trouve de la liberté dans la contrainte.
Et c'est exactement ça. Tu as le choix de tes contraintes pour ta liberté. C'est-à-dire qu'une personne qui est là-dedans et qui ne sait pas, ouais, mais j'ai pas le temps de faire ci, pas le temps de faire ça, j'ai ci, j'ai ça. Ouais, mais à un moment donné, moi, je choisis mes contraintes et elles sont pas imposées et ça me permet d'être libre dans plein d'autres choses. Et je te rejoins à 1000% sur ce que tu viens de dire.
Exactement. Et est-ce que tu as un livre ou un film à me conseiller, peut-être justement en rapport avec ces routines ou autres?
Ah, j'en ai lu un il y a pas longtemps, j'ai oublié le nom. Sinon, bon après, pour les routines, il y en avait un qui était ultra basique, un peu long, à l'américaine, tu vois, qui était juste change the habit, changer les habitudes.
Je vois, ouais.
Des fois, je les prends en anglais, des fois en français, en fonction de lequel est le moins cher. Vu que j'ai pas mal de livres, tu vois, de manière générale, je regarde en français ou en anglais, je regarde lequel est le moins cher et je prends le moins cher. Parce que des fois, ça, c'est ouf, hein. Genre, la dernière fois, j'ai acheté un bouquin, il coûtait 4€, il était en français, en anglais, il était à 14. Wow! Ouais, je l'ai pris en anglais, hein.
C'est parce que tu l'as acheté en Suisse?
Ah non, là, tu rajoutes encore un petit peu. La dernière fois, j'ai acheté un bouquin, en Suisse, il était à, je vais pas dire de conneries, je crois qu'il était à 39 francs. Tu t'enlèves l'étiquette du truc et tu le vois à 23€. Tu vois. Je t'ai dégoûté. Mais bon, bref.
Tu m'étonnes.
Ouais, sur les habitudes, il y en a plein.
Non, ou d'autres livres qui t'ont marqué, hein.
Oh, il y en a plein. Sinon, il y en a un que moi j'essaie d'appliquer dans beaucoup de sphères de ma vie, c'est 10x Rule de Grant Cardone. Cardone, je sais pas. Celui-là, il est vraiment top. Il est vraiment bien.
Ok.
Il est bien impressionnant dans tout ce qui est la productivité, celui-là que j'ai bien aimé. Je l'ai eu il y a quelques temps, c'était la 25e heure. Il est pas mal.
D'accord, je connais pas.
Quelques petites astuces de productivité dans la journée, il est pas mal. Et je me souviens, le livre que j'ai lu il y a pas longtemps qui était vraiment top, c'était Rudy qui me l'avait conseillé, c'était les secrets de All Black. Ah, il était cool, celui-là.
Ah, d'accord.
Ah, il était vraiment cool. Il en parle souvent dans ses podcasts. Et je dis, oh, tiens, pourquoi pas, je l'ai pris. Et ouais, il était vraiment cool.
Enfin, voilà. Bah, écoute, c'est super. Moi, je lis beaucoup aussi. Je progresse beaucoup grâce à la lecture et je suis toujours curieux de connaître un petit peu la liste de lecture de mes invités. Donc là, j'ai 3-4 titres pour étayer ma bibliothèque que je mettrai bien évidemment dans les commentaires, dans l'article lié.
Après, il y en a plus d'autres, mais ils ne viennent pas à l'esprit.
Non, mais c'est déjà très bien. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour bosser avec toi? Donc, pour commencer, t'as créé une formation, du coup, qui est peut-être plutôt à destination des coachs, c'est ça? La formation Labo RNP.
Ouais, Labo RNP, donc RNP, reprogrammation neuroposturale ou réathlétisation neuroperformance. On est 3 à l'avoir créé. On l'a créé, on l'a lancé officiellement le 15 janvier. On est 70 personnes aujourd'hui à la faire. Et, elle est destinée aux coachs, mais pas que. On va dire coach et thérapeute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 70 personnes, on a des coachs, des prépas physiques, on a des kinés, on a ostéo, on a psychomote. Et je crois un podo. Je crois, de tête. Enfin bref. C'est pas mal centré. En fait, on va dire, c'est tous ceux qui travaillent avec une personne, j'ai envie de te dire, tu vois. Parce qu'encore une fois, psychomote, ben, va beaucoup plus être sur les troubles d'apprentissage. Le coach et le prépa physique, beaucoup plus sur la performance, entre guillemets, hein. Le physio, peut-être plus sur la réathlétisation. Donc en fait, c'est un petit peu donné pour tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on a voulu faire, c'était qu'elle soit maximum pratique et surtout, vu que c'est très individualisé, c'est donner des principes et pas des protocoles tout faits. Comme je te disais, quand tu comprends les principes, tu sais comment appliquer tout ce qu'on te donne. Quand tu te donnes un protocole tout fait, tu l'appliques et tu au petit bonheur la chance, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher. Et en fait, l'idée, c'est un petit peu ça.
Ok, et si je veux te contacter pour prendre un coaching, donc un bilan neuroposturo, je sais pas si ça s'appelle comme ça, et puis la posologie qui va avec le beau petit suivi dont tu parlais hebdomadaire.
Alors, le plus facile, c'est de me contacter sur Instagram. C'est sebzimmer-insta.
Et, okay, je mettrai le lien.
Ouais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Facebook, j'y suis en mode sous-marin, je regarde de temps en temps, mais tout ce que je publie sur Facebook, c'est à la base basé d'Insta, et puis j'ai fait juste copier sur Facebook, tu vois. Donc, je suis beaucoup plus réactif sur Instagram, et sinon par mail, szimer17@icloud.com. Et puis après, si c'est par rapport à la formation Labo RNP, sur Instagram, c'est Labo RNP, tout simplement.
Ok, je mettrai le lien aussi. Je sais pas si tu peux le dire comme ça, mais ça coûte combien à peu près un coaching neuroposturo?
Ça dépend. Il y a plein de facteurs à prendre en compte entre le nombre de séances, etc., voir si ça peut vraiment matcher. Tu vois, ça m'est déjà arrivé à des gens de ne pas les prendre, pas une question financière ou quoi que ce soit. C'est parce que je savais que ça allait pas matcher. Encore une fois, parce que la majeure partie des résultats, c'est toi qui les fais, c'est-à-dire que tu fais les exercices. Si je sens pas la personne à 100%, et encore une fois, moi je travaille beaucoup sur le long terme. Si je vois que la personne, ben ça matche pas trop, on n'a pas trop d'affinité, pas d'affinité, mais tu vois ça, il y a pas le truc, tu vois, où tu sais tu passes un mauvais moment pendant le bilan. Ouais, voilà, c'est ça. Ben du coup, je préfère lui dire honnêtement, écoute, ça, je veux pas bosser avec toi, et c'est pas pour prétendre prétentieux ou quoi que ce soit. C'est juste encore une fois, c'est que si moi je sens pas, ben elle va le ressentir, et peut-être que la personne ressent la même chose, et elle aura pas les résultats. Et encore une fois, mon but, c'est d'optimiser le temps au maximum et que la personne en face de moi, si on bosse ensemble, c'est qu'elle met le plus de résultats possible. Et si je sens qu'aujourd'hui, je suis pas la personne à même de te rapporter le plus de résultats possible, je préfère soit t'envoyer chez un confrère ou n'importe quoi, mais je ne préfère pas, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, ça dépend de plein de choses. Et encore une fois, c'est pas pour dire prétentieux ou quoi que ce soit. C'est vraiment par rapport, mon objectif, c'est d'aider la personne. Si moi, aujourd'hui, je ne me sens pas capable de t'aider, ben, je vais pas te prendre juste pour gagner ton fric, tu vois, ça m'intéresse pas.
Ok. Ouais, écoute, Sébastien, merci. On a fait un grand tour. J'ai trouvé ce podcast hyper intéressant. Ça m'a donné envie de creuser plus en profondeur la neuroposturo et de m'acheter de nouvelles chaussures minimalistes. donc, je te remercie pour ton temps. Je te souhaite une excellente journée et puis à bientôt.
Ben écoute, merci à toi et puis ben, à très bientôt.
Ciao.
Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.